France Inter.
Le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. L'effondrement d'un pont aux États-Unis à Baltimore, pont routier de plus de 2 km de long, percuté ces dernières heures par un porte-conteneur. Scène impressionnante, on vous raconte dans un instant. Un dérapage attendu, mais tout de même, celui de nos comptes publics, 5,5% du PIB pour le déficit l'an dernier, c'est plus que prévu. Vive critique des députés à l'Assemblée nationale ce matin, nous y serons. Et notre invité, le ministre chargé des comptes publics, Thomas Cazenave, le gouvernement va-t-il devoir augmenter les impôts? À suivre encore, une ancienne militaire qui prend la parole, elle dénonce des agressions sexuelles lorsqu'elle était dans l'armée.
Ça a évolué en des choses pas très nettes, où il me faisait des cadeaux de type objet sexuel, où il me montrait des vidéos pornographiques, où il me disait ses préférences aussi. Après, ça a dérapé, où il fermait la porte de ma cuisine et voilà.
Témoignage à suivre, son agresseur a été condamné, mais il porte toujours l'uniforme. Explication dans quelques minutes. Pourquoi des sans-abri sont-ils transférés depuis un an de région parisienne vers les régions? Bonjour William Delesseux.
Bonjour Jérôme.
Coup de gueule du maire d'Orléans, hier, vous allez nous expliquer.
Oui, pas de lien avec les Jeux Olympiques, a priori.
A tout de suite, nous serons aussi sur l'île de Noirmoutier où des élus demandent que le pont redevienne payant pour lutter contre le surtourisme. À 13h30, faut-il rouvrir des mines dans notre pays? Les projets se multiplient, les oppositions aussi. J'attends vos questions pour nos invités. 01 45 24 7000. 13h50, c'est la France. 800 000 sangliers abattus en France l'an dernier, un record. Et on en voit de plus en plus en ville. Ce sera avec Cyril Petit du journal Ouest France. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson, la romancière Joy Sormand demande le monde de demain. Suprême NTM, bien sûr, à Frédéric Pommier. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Le jour est maintenant levé à Baltimore, sur la côte est des États-Unis. Nous sommes dans l'état du Maryland et les habitants découvrent l'ampleur des dégâts sur le pont qui enjambe la rivière Patapsco. 2,5 km de long, ce pont s'est effondré la nuit dernière, percuté par un navire, des véhicules et plusieurs personnes sont tombées à l'eau. Bonjour Étienne Monin.
Bonjour.
Que s'est-il passé exactement?
Alors c'est une scène de film catastrophe qu'on aperçoit de nuit dans les lumières du port. On voit un gigantesque porte conteneur qui vient heurter une des piles du pont. La route et la structure de fer en arc de cercle au-dessus s'effondrent comme un ruban dans la rivière. Il est 1h30 heure locale, 6h30 heure française. Des témoins parlent d'un effet tremblement de terre.
The Key Bridge sinking, the bridge is gone. Holy hell.
À ce moment-là, il n'y a pas de voiture visible sur la 2x2 voies du pont. Une personne est sortie de la rivière par les secours dans un état sérieux. Les pompiers en recherchent encore 7 autres. Les sonars ont repéré des véhicules dans l'eau. C'est une course contre la montre. La température dans l'eau est de 8 degrés.
On a envoyé des équipes de secours sur le lieu de la catastrophe et des équipes de chiens sont parties pour essayer de localiser les personnes qui sont sans doute tombées à l'eau.
Kevin Cartwright, des porte-parole des pompiers de Baltimore. Le porte-conteneur s'appelle le Dali. Il fait 300 mètres de long. Il est sous pavillon singapourien. Il date de 2015. Sur l'une des vidéos, on voit qu'il fait un virage en direction de la pile du pont. On aperçoit aussi un panache de fumée noire à l'arrière. Pour l'instant, la Maison Blanche écarte l'intention malveillante ou terroriste derrière cette catastrophe.
Merci Étienne Monin pour ces précisions. En France, le gouvernement a eu beau préparer le terrain. Aujourd'hui, il doit s'expliquer comment le déficit public, c'est-à-dire celui de l'État, des collectivités locales et de la Sécu, a-t-il pu déraper à ce point? Il atteint finalement 5,5% du PIB l'an dernier, c'est-à-dire près de 16 milliards de plus que ce qui était prévu. Pourquoi ce dérapage? Je poserai la question dans un instant au ministre chargé des comptes publics. D'abord, allons à l'Assemblée nationale où vous vous trouvez, Marie Mollet. Bonjour Marie.
Bonjour.
Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a dû se justifier ce matin devant les députés.
Et il a répété hein, devant les députés de la majorité, c'est un problème de recettes, pas de dépenses qu'on a laissé filer. On a réagi aussitôt, 10 milliards d'économies. Le patron de Bercy qui a appelé aussi ses troupes à la solidarité. En clair, ce n'est pas le moment de laisser libre cours à sa créativité. Lui qui a répété ce matin qu'il était contre toute hausse d'impôts. Seulement voilà, dans la majorité, il y a un frémissement. Des élus qui désormais sortent du bois. Oui à la taxation des super dividendes, a proposé Yael Braun-Pivet la semaine dernière. Oui à une hausse des impôts ciblés, des François Bayrou. Ce débat doit avoir lieu maintenant, abonde la députée Aude Luquet.
C'est le moment, il faut y aller, il faut trouver une méthode qui soit différente de celle que l'on connaît, que ce ne soit pas uniquement effectivement le ministre qui nous dise ce que nous devons faire. Un ministre donne son avis, il est ministre et nous sommes députés. Il faut que le débat soit ouvert, on ne va pas aujourd'hui s'enfermer sur quelques idées, super dividendes ou super profit ou de rachat d'actions ou la flat tax, il n'y a pas de tabou.
Mais chez Renaissance, hein, beaucoup d'élus redoutent ce débat. Depuis 2017, on crie sur tous les toits. Pas de hausse d'impôts, difficile de faire un tête-à-queue, reconnaît un député pourtant tendance aile gauche. Que restera-t-il du macronisme si on augmente les impôts, poursuit un conseiller de l'exécutif. En tout cas, ce matin, les députés ont demandé à être davantage associés. On en a marre d'apprendre dans la presse des coupes budgétaires décidées ici ou là, seul par Bercy, a regretté un député.
Marie Mollet, merci à vous en direct de l'Assemblée nationale avec les moyens techniques de Lucien Lefebvre. Alors, réserve ou critique des députés, on l'entend, celle aussi, critique du premier président de la Cour des comptes chargé de veiller sur l'argent public, Pierre Moscovici. Il regrette un dérapage, je cite, important et très très rare du déficit et il demande désormais que les efforts soient partagés pour redresser les comptes.
Je comprends l'aspiration des Français à se dire il faut que ceux qui ont plus soient aussi concernés par l'effort. Donc tout le monde doit être concerné par l'effort. Si on demande un effort aux Français, partageons-le et partageons-le équitablement. Et je ne dis pas ça par préférence politique, je dis ça parce que je vois bien en même temps que nous sommes dans une société fragile et que, comme vous dites, le consentement à l'impôt, mais consentir à l'impôt, c'est être citoyen. Quand ça c'est atteint, c'est la démocratie qui est atteinte. Et donc il faut que les efforts demandés soit réel, parce qu'il ne faut pas se tromper. Je suis là pour dire la vérité ce matin. Et je pense que le gouvernement doit dire la vérité. Mais il faut qu'ils soient équitablement partagés, sinon ils ne seront pas acceptés.
Pierre Moscovici ce matin sur Inter avec Nicolas Demorand et Léa Salamé. Bonjour Thomas Cazenave.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur France Inter dans ce 13-14. Vous êtes le ministre délégué aux comptes publics. Un écart de 0,6 points donc pour le déficit 2023 par rapport à vos prévisions. Un tel écart arrive très rarement. Comment avez-vous pu, vous et vos services, vous trompez dans ses proportions?
Alors, on ne s'est pas trompé. On a constaté en fin d'année une baisse très forte de nos recettes. C'est moins d'impôts sur les sociétés, c'est moins de cotisations sociales, c'est moins de TVA. Donc, vous avez des impôts qui sont moins rentrés dans les caisses à hauteur de 20 milliards d'euros, 21 milliards d'euros très précisément, avec un ralentissement économique sur la fin d'année qui nous amène effectivement le déficit public non pas à 4,9% mais à 5,5%.
C'était imprévisible.
Eh bien écoutez, c'était totalement imprévisible puisque encore début décembre, nous avions juste le début de premières alertes sur finalement des rentrées fiscales moins importantes que prévues. Ce qui est certain, c'est dès que nous avons eu la confirmation, nous avons agi tout de suite. Nous avons pris avec Bruno Le Maire un décret d'annulation de 10 milliards d'euros sur les dépenses de l'État, c'était en février, pour corriger le tir le plus rapidement possible, réagir.
Dans ces conditions, Thomas Cazenave, est-ce qu'il est toujours possible de ramener le déficit annuel, c'est-à-dire l'écart entre nos recettes et nos dépenses, à 3% en 2027, dans 3 ans? Je rappelle que c'est 5,5% du PIB cette année. Est-ce que vous gardez cet objectif?
Notre objectif de ramener le déficit public sous les 3%, il est confirmé. Il est important pour nous, on ne peut pas rester à la traîne des autres pays européens. On ne peut pas continuer à demander à nos enfants, nos petits-enfants de payer pour nos dépenses. Donc je pense que cet redressement des finances publiques, il est indispensable. C'est pour ça qu'on a réagi tout de suite et on devra continuer ces efforts. Et c'est pour ça qu'on a engagé le travail avec les parlementaires, les collectivités territoriales, les partenaires sociaux. C'est l'affaire de tous, les finances publiques. C'est vraiment l'affaire de tous. Et on doit tous y travailler dans les mois qui viennent pour tenir cet objectif de réduction de notre déficit public à 3% en 2027.
Pour arriver à cet objectif, selon les économistes, il faudra dégager 70 milliards d'euros en 2027. Et au total, sur 3 ans, d'ici 2027, le chiffre monte au-delà des 100 milliards. Vous allez les trouver où ?
Alors, il faut bien regarder que notre premier allié pour redresser les finances publiques, c'est la croissance et l'emploi. Quand vous luttez, comme nous l'avons fait depuis 2017, contre le chômage, c'est moins de dépenses d'assurance chômage, moins de dépenses sociales, plus de cotisations, plus d'impôts. on va continuer l'objectif du plein emploi. C'est pour ça qu'on continue à réformer avec France Travail, que le Premier ministre réunit le gouvernement demain autour de la réforme du marché du travail, de l'assurance. Donc déjà, notre objectif, c'est tenir la croissance, tenir la création d'emplois. On a une décroissance qui résiste le mieux en Europe. Et donc, c'est aussi grâce à ça qu'on le fera.
Ça suffira pas.
On fera les deux. On fera les deux, c'est-à-dire atteindre le plein emploi et faire des économies. Vous savez, certains nous ont dit c'est terrible de faire 10 milliards d'euros d'économies sur les dépenses. Dépenses publiques, c'est 1 600 milliards d'euros. Est-ce qu'on est capable de faire 10, 20 milliards d'euros? Je le crois.
Qui doit faire les efforts? On a entendu ce matin sur Inter Pierre Moscovici, le président de la Cour des comptes, et on l'a réentendu il y a quelques minutes, dire il faut partager les efforts.
Je crois nécessairement aux efforts partagés pour que chacun y contribue, et je pense que c'est une des conditions pour réussir.
Y compris les plus aisés?
Vous savez, sur les plus aisés, on n'a pas de tabou. On l'a dit avec Bruno Le Maire, on considère qu'il nous faut réussir ce que l'on a.
Ah bah si, il y a un tabou, c'est pas de hausse d'impôts.
On a créé un impôt minimum sur les entreprises. C'est la première fois que l'on a mis dans ce budget un taux d'impôt minimum. C'est un accord international. On veut prendre la même initiative à l'échelle internationale pour un impôt minimum, notamment sur les plus riches, certains qui échappent à l'impôt. Ce combat-là, on va le
mener. Mais à l'échelle de la France, vous ne changez rien sur la taxation des plus aisés ou des super-profits?
Non, alors je ne suis pas d'accord non plus. Je l'ai dit, je l'ai redit aux parlementaires. Quand on constate avec la Cour des comptes que les énergéticiens ont dégagé plusieurs dizaines de milliards d'euros de super profits, c'est pas un tabou pour nous. Vous savez qu'on avait prévu une taxe sur leurs super profits qui n'a ramené que 300 millions d'euros. On considère que c'est pas assez. Et nous, on soutiendra toutes les initiatives de la majorité pour aller récupérer une partie de cette rente. En revanche, on ne revient pas sur une politique économique qui nous a permis de ramener le chômage à 7,5%, qui a créé 2 millions d'emplois. On ne va pas faire un tête-à-queue sur le plan de la politique
économique. Mais qui creuse le déficit.
Mais non, ça ne creuse pas le déficit. Aujourd'hui, la réalité, c'est que on a besoin de la croissance, on a besoin de la création d'emplois. Et ça, on tiendra bon sur cette politique. Par contre, on regarde tout, on regarde effectivement les dépenses, on peut regarder les super profits des énergéticiens. C'est ça la politique que l'on va mener dans les prochains mois.
Thomas Cazenave, ministre délégué chargé des comptes publics, interview enregistrée en fin de matinée. Le Premier ministre Gabriel Attal, lui, s'exprimera demain soir sur le budget, invité du 20h de TF1. Toujours sur l'argent public, les Jeux Olympiques de Paris devraient coûter entre 3 et 5 milliards d'euros à nos finances, a dit ce matin Pierre Moscovici. On ne connaît pas encore le montant définitif. Les Jeux Olympiques, à l'origine du transfert de Paris vers les régions de sans-abri. C'est l'accusation formulée hier par le maire d'Orléans, Serge Grouard, qui dénonce l'arrivée ces derniers mois dans sa commune de 500 migrants et de SDF déplacés, dit-il, en catimini. Il demande que ça cesse, vous l'avez d'ailleurs peut-être entendu ce matin sur Inter. Seulement ce matin, la préfecture du Loiret, elle, dément tout lien entre ces arrivées et les JO. William Delesseux, vous êtes avec nous, vous allez nous aider à y voir clair. En fait, ces transferts ont débuté il y a un an.
Et depuis, 3500 migrants sans-abri, demandeurs d'asile ou non, ont été pris en charge, conduits s'ils le souhaitent, vers 12 SAS régionaux, des transferts sur la base du volontariat qui ont commencé en avril l'année dernière. Face à un seul constat, l'hébergement d'urgence en région parisienne est à bout de souffle, il est saturé. Il y a donc aussi un SAS à Orléans. Comme ailleurs, les migrants n'ont pas vocation à y rester plus de 3 semaines. Didier Lesky, directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Ce que décrit le maire d'Orléans, c'est justement un sas où entre 30 et 50 personnes arrivent toutes les 3 semaines, et c'est toujours au même endroit, et puis elles sont orientées vers d'autres dispositifs en fonction de leur situation administrative. Ce n'est pas un lieu où d'un coup on aurait fait passer de 30 à 50 personnes à 500 personnes. Non, c'est justement un sas, voilà. Qu'il y ait une politique de répartition de la charge de l'accueil me semble un bon principe républicain.
Et ce sont les préfectures des régions concernées qui ont la charge de cet accueil temporaire, des départements concernés qui ont la charge de cet accueil temporaire, pas les maires. À l'origine aussi de cette répartition des migrants sans-abri, la préfecture de la région Île-de-France dément également tout lien avec les Jeux Olympiques et rappelle qu'elle finance 120 000 places d'hébergement toutes les nuits.
Merci William Delesseux. En Alsace, 6 mois après la disparition de la jeune Lina, l'enquête a connu un nouveau développement ce matin. Développement inédit puisque 3 personnes ont été placées en garde à vue. Antoine Balandra, ce sont les premières gardes à vue dans ce dossier.
Ces 3 personnes sont en ce moment entendues par les gendarmes de la section de recherche de Strasbourg. D'abord un homme, il a été interpellé ce mardi matin à son domicile. Un couple, lui, a été convoqué par les militaires. Ces toutes premières gardes à vue doivent permettre de faire des vérifications, de fermer des portes, comme cela a déjà été le cas lors d'autres auditions dans cette affaire. Les enquêteurs veulent notamment préciser des incohérences d'emploi du temps le jour de la disparition de Lina. L'adolescente de 15 ans n'a plus donné signe de vie depuis le 23 septembre dernier. Elle venait de quitter sa maison de plaine pour se rendre à la gare de Saint-Blaise-la-Roche. Ce lundi, 7 plongeurs de la gendarmerie ont sondé un étang de pêche au col de Stège, une étendue d'eau située à environ 9 minutes du lieu de la disparition de Lina. Un puits a également été sondé ce matin.
Antoine Balandra, France Bleu Alsace.
France Inter. Le 13-14. Jérôme Cadet.
L'armée française s'enorgueillit d'être l'une des plus féminisées au monde. 16% de nos militaires sont des femmes. Or, de plus en plus de témoignages émergent pour dénoncer les violences sexuelles qu'elles subissent à l'intérieur des armées, mais aussi l'absence de réaction de la hiérarchie. C'est ce qui est arrivé à Manon Dubois, victime dès sa première mission à l'âge de 18 ans. Elle était alors cuisinière sur un navire et c'est notamment dans les cuisines que se sont déroulées les agressions. Plusieurs fois par semaine, dit-elle, et pendant un an, elle raconte.
Ça a évolué en des choses pas très nettes, où il me faisait des cadeaux de type objet sexuel, où il me montrait des vidéos pornographiques, où il me disait ses préférences aussi, ses sites, ses jeux aussi, hein, à connotation sexuelle, enfin, ça, voilà.
Et à un moment donné, il se passe des choses, c'est ça ?
Ouais, je saurais pas dire. Quand exactement il y a eu les premiers faits, mais je sais que oui, après ça a dérapé, où bah, il fermait la porte de ma cuisine et moi j'étais encore plus seule que seule avec lui du coup, puisque bah, tous les hommes c'est des manœuvres donc ils travaillent en haut, puis moi j'étais la seule en dessous le bateau. Et ouais, voilà, et je me retrouvais enfermée avec lui. Au départ, non, il fermait pas la porte. Après, il l'a fermée et voilà.
Témoignage recueilli par Gaëlle Joly. Alors, à ce moment-là, Manon Dubois, en 2019, en parle à sa hiérarchie tout en minimisant les faits. Simon Chenot, comment réagit l'armée ?
La jeune femme informe sa hiérarchie au bout de plusieurs mois et l'homme est rappelé à l'ordre. L'un comme l'autre sont affectés sur un nouveau bateau. Mais le hasard fait, et c'est le terme utilisé par la préfecture maritime, que la victime et son agresseur se retrouvent à nouveau sur la même frégate. Les agressions sexuelles reprennent, la hiérarchie est à nouveau informée. Une enquête interne est lancée et la justice saisie. En descendant du bateau, Manon Dubois porte plainte. Côté disciplinaire, le militaire a écopé de 10 jours d'arrêt. Côté judiciaire, il a fait l'objet d'une procédure de composition pénale qui lui évite un procès. Le militaire a été sanctionné d'un stage de sensibilisation contre le sexisme et d'une amende de 600 euros à verser à la victime. Insuffisant, selon la jeune femme. Depuis, Manon Dubois a quitté l'armée. Le militaire, lui, est toujours en poste.
Explication Simon Chenot, France Bleu, Breizh-Izel. Nous ne protégeons pas les bourreaux, réagit de son côté la marine française. La députée Renaissance Laetitia Saint-Paul, elle, c'est la seule militaire élue à l'Assemblée nationale, elle demande au ministre de la Défense Sébastien Lecornu de mettre en place une enquête interne. Ils peuvent avoir un usage militaire. Les satellites, problème pour la France, elle est dépendante car depuis l'arrêt d'Ariane 5 en juillet dernier, nous n'avons plus de lanceurs. Quand SpaceX, la société d'Elon Musk, elle a réussi l'an dernier 107 lancements. C'est dire si l'arrivée d'Ariane 6 est attendue avec impatience. Ça se fera de Kourou en Guyane où Emmanuel Macron poursuit son déplacement. Bonjour Maxence Lambrecq.
Bonjour Jérôme.
Vous êtes sur place pour Inter, Maxence, et vous vous trouvez précisément devant ce nouveau lanceur qui devrait prendre son envol au début de l'été.
Oui, il dort pour l'instant à l'horizontale, sous nos yeux, dans un hangar. Il lui manque les boosters sur le côté et ça coiffe avec les satellites à l'intérieur.
On est tous impatients d'avoir ce lancement qui est attendu, qui est en retard par rapport à ce qui était prévu.
Loïc Ménager, directeur d'Ariane Espace ici, rejoint le pas de tir, là où Ariane 6 devrait s'élever dans 3 semaines, sous le contrôle de Myrto Madelon, ingénieur au CNES.
On fait la verticalisation à l'aide d'un pont roulant que vous voyez, qui est 90 mètres plus haut là. C'est les deux rails jaunes que vous voyez tout en haut au niveau de la toiture.
Le jour du lancement, promis au plus tard fin juillet, cet immense hangar qui fait le poids de la tour Eiffel reculera sur des rails.
Évidemment, chaque jour apporte son lot de petites surprises qui sont des problèmes à régler, qui ne sont pas insurmontables.
Voici le directeur du centre spatial, Philippe Lee, qui admet que la comparaison avec l'empire d'Elon Musk n'est pas facile.
SpaceX, ils font une centaine de lancements par an. Donc on n'est pas du tout dans cette gamme-là. D'abord, on n'a pas le marché en Europe pour assurer ça. Donc bien sûr que c'est dur, ils ont fait des avancées en plus technologiques majeures. Par contre, contrairement à ce qu'on peut penser, on n'est pas en train de se chercher une place sur un strapontin. On a une certaine clientèle, qu'elle soit institutionnelle européenne, mais même privée, qui cherche aussi une alternative au tout SpaceX.
Et notamment Amazon, le carnet de commandes est plein, se rassure-t-on ici en croisant les doigts discrètement. Une nouvelle fusée, c'est un peu une chance sur deux.
Merci Maxence Lambrecq, en direct de Kourou, en Guyane. Avec les moyens techniques de Romain Lucquens, vous suivrez aussi le président de la République dans son autre étape après Kourou en Guyane, direction le Brésil voisin. Après l'attentat de vendredi dernier au Crocus City Hall, près de Moscou, la Russie continue de pointer la responsabilité de l'Ukraine. Les auteurs présumés de cet attentat devaient être accueillis en héros en Ukraine. Voilà ce que dit à l'instant le directeur des services de sécurité russes, qui ajoute que des services secrets occidentaux auraient, selon lui, facilité cet attentat. 14 ans qu'il a été arrêté à Londres, 14 ans que les autorités américaines rêvent de lui mettre la main dessus. Le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, coupable aux yeux des Américains d'avoir publié des centaines de milliers de documents confidentiels. Il est actuellement détenu dans une prison de haute sécurité au Royaume-Uni et ce matin, la justice britannique se prononçait sur la demande d'extradition américaine. Bonjour Richard Place.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Londres. Richard, les juges britanniques demandent finalement des garanties supplémentaires aux États-Unis.
Oui, aujourd'hui, on s'attendait à une décision assez binaire. Julian Assange peut-il faire appel ou doit-il être extradé ? Eh bien, les deux juges de la haute cour britannique en demandent plus, ils veulent plus d'informations. En fait, la défense de Julian Assange avait soulevé 9 points pour contester l'extradition de son client. Et finalement, les juges en ont retenu 3 sur lesquels ils demandent à l'administration américaine des garanties. Ces 3 points sont le respect du premier amendement de la Constitution américaine, à savoir la liberté d'expression. Si Julian Assange devait être jugé aux États-Unis, elle doit être prise en compte. Le deuxième point, c'est de ne pas être discriminé en fonction de sa nationalité, lui qui n'est pas américain. Enfin, le troisième point, c'est que la justice britannique demande à l'administration américaine d'affirmer qu'il ne sera pas condamné à la peine de mort, puisque certains des chefs d'accusation qui pèsent contre lui outre-Atlantique pourraient le mener à cette décision. Les États-Unis ont 3 semaines pour donner ces garanties, les produire et les fournir à la haute cour britannique, qui ensuite fera une nouvelle, il y aura une nouvelle audience devant la haute cour britannique. Ce sera le 20 mai. Et là, une décision devrait être prise pour savoir s'il doit pouvoir faire appel ou s'il est extradé.
Merci Richard Place d'avoir rendu clair ce nouvel épisode dans le feuilleton judiciaire autour de Julian Assange et de son extradition. Le Conseil de sécurité de l'ONU a pour la première fois exigé hier soir un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Mais sur le terrain depuis ce matin, pas de changement. Les raids israéliens se poursuivent près de Rafah dans le sud du territoire. Pas de répit donc pour les organisations humanitaires qui ont toujours autant de mal à acheminer de l'aide. Un enfant sur 3 dans la bande de Gaza est en malnutrition sévère, selon l'ONU. Jonathan Crick, c'est le directeur de la communication pour l'UNICEF, l'agence de l'ONU pour les enfants pour la Palestine.
Dans le nord de la bande de Gaza, nos équipes qui étaient sur place, on a nos collègues qui sont revenus d'une mission il y a 2 jours et qui indiquaient qu'ils ont très peu de nourriture. Et quand ils ont de la nourriture, c'est très limité en termes de diversité. C'est-à-dire que c'est du pain, du riz, et c'est à peu près tout. Il n'y a pas de légumes, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de viande ou ce genre de choses. Et donc, on a rencontré un enfant, Youssef, il a 13 ans, et ses deux frères aînés sont morts, et lui, il est en charge pour la famille d'aller chercher tous les jours un petit peu de nourriture. Et on l'a suivi pendant une journée, et en fait, ce qu'on observait, c'est que il parvient à trouver un peu de farine pour faire quelques morceaux de pain, et puis sinon il cueille de l'herbe, il mange de l'herbe. Et donc ça, c'est la situation à laquelle de nombreux enfants et de nombreuses familles sont exposés dans le nord de la bande de Gaza.
Jonathan Crick ce matin sur Inter avec Mathilde Munoz. Aux États-Unis, en France, en Chine, les autorités cherchent la bonne réponse pour limiter l'accès des enfants aux réseaux sociaux. Plusieurs études menées ces derniers mois ont établi un lien entre le temps passé devant les écrans et l'apparition de troubles mentaux. Aux États-Unis, par exemple, plus d'un ado sur deux passe en moyenne 4 heures par jour sur les réseaux. Pour inverser la tendance, la Floride a adopté hier une loi. Bonjour Julien Baldacchino.
Bonjour.
Désormais, dans cet État, il faudra avoir 16 ans pour s'inscrire librement sur les réseaux.
Oui, car en dessous de cet âge, pour les adolescents âgés de 14 ou 15 ans, il faudra un accord parental pour pouvoir s'inscrire à TikTok, Instagram ou Snapchat. Et en dessous de 14 ans, l'inscription sera purement et simplement interdite par la loi sous peine d'amende. Pour le gouverneur républicain de Floride, Ron DeSantis, il s'agit de protéger les plus jeunes après des suicides d'adolescents entrés en contact avec des adultes.
Avec des choses comme les réseaux sociaux, vous pouvez avoir des enfants à la maison qui ont l'air d'être en sécurité et en réalité des prédateurs qui font irruption dans votre propre maison.
En revanche, on ne sait pas comment la Floride compte faire contrôler l'âge des inscrits.
Alors en France, le gouvernement veut aussi légiférer. Emmanuel Macron avait annoncé des interdictions au mois de janvier. Quelle est la règle, Julien ?
Eh bien, la règle générale est la même. Les réseaux sociaux ne permettent pas, en théorie, de s'inscrire quand on a moins de 13 ans. Mais il est très facile de contourner ce blocage en mentant sur son âge. L'an dernier, le Parlement a adopté une loi sur la majorité numérique fixée à 15 ans, âge en dessous duquel une autorisation parentale est aussi nécessaire. Mais pour l'heure, cette loi est impossible à appliquer. Aucun dispositif de contrôle satisfaisant n'ayant été identifié. C'est en Chine que les restrictions sont les plus fortes. Les mineurs n'ont pas accès à Internet de 22h à 6h du matin et TikTok a même mis en place une limite d'une heure d'utilisation par jour. Pour les moins de 13 ans, ce sont les parents qui autorisent la connexion demi-heure par demi-heure.
Julien Baldacchino pour cet éclairage. Comment nous passer de nos smartphones ? Ce sera l'objet d'une journée spéciale après-demain sur Inter et ici même dans ce 13-14. Sur l'île de Noirmoutier, au large de la Vendée, là le débat du moment est le suivant. Faut-il ou non le retour d'un péage? Des élus de Lille le réclament. Cela permettrait, selon eux, de réguler les effets du surtourisme. Reportage Yves-René Tapon.
Comment se passer de cette manne financière? Notre territoire est fragile. Les élus noirmoutrins ont les yeux rivés sur l'exemple de l'île de Ré, où la moitié des recettes du pont est au bénéfice de Lille. Catherine Coesslier est vice-présidente à la communauté de communes.
C'est indispensable par rapport à la fragilité de l'île. Déjà, les habitants sont perturbés dans leur quotidien par la surfréquentation touristique, des problèmes d'érosion du littoral.
Mais un péage ne risquerait-il pas de reporter une grande partie du trafic sur le passage du Gouas ?
Au contraire, l'écotaxe nous permettra d'avoir un financement pour protéger ce Gouas, un repavage nécessaire. À Nouveau de Barbate, on a fléché des zones de parking pour permettre, au lieu de faire un stationnement sur l'estran, de faire un stationnement avant de prendre le Gouas.
Mais du côté des touristes, évidemment, l'idée n'est pas très populaire, comme chez ces retraités camping-caristes.
Nous ne sommes pas les bienvenus. On apporte quand même un peu d'argent.
Nous, on est de passage, donc l'idéal, c'est de pas payer. On va à l'île dorée, donc ça ne changerait pas nos habitudes.
Vous viendriez plus s'il fallait payer ?
Non, on resterait chez nous.
C'est pas normal. Si c'est une vingtaine d'euros, ça va en bloquer certains.
Vous continueriez de venir ou pas ?
Ça dépend du prix.
Un prix alors différent entre les locaux, les employés et les touristes.
Reportage France Bleu Loire-Océan. Les élus du département de la Vendée voteront sur ce sujet vendredi. On a pronostiqué son déclin à la sortie de la crise Covid. Alors notons aujourd'hui sa bonne santé. Le cinéma, le nombre de films français produits est reparti à la hausse l'an dernier. Bonjour Corinne Pellissier.
Bonjour.
On a retrouvé les niveaux d'avant la crise sanitaire.
Voilà, les projets sont là, les films se font et ils trouvent des financeurs, ce qui n'était pas gagné au vu du nombre de longs métrages restés sur les étagères au moment du Covid. L'embouteillage des sorties avait rendu les producteurs assez frileux, mais le retour du public dans les salles a fini par redonner confiance à une profession qui a quasiment retrouvé aujourd'hui son niveau d'avant-crise. 298 films agréés par le CNC, essentiellement tournés sur le territoire français, avec des budgets plutôt en hausse, autour de 4 millions d'euros, des partenaires au rendez-vous, des diffuseurs historiques comme Canal+, mais aussi Netflix, Amazon, Disney, qui investissent dans la production de fiction, avec un grand boom autour de l'animation, c'est ce que révèle l'étude. Les indicateurs sont un peu moins bons sur le documentaire. Il ressort aussi que la parité n'est pas au rendez-vous. Mais le bilan est globalement encourageant. Et ce qu'il faudra regarder à présent, c'est le résultat en salle. Tous ces films vont-ils trouver leur public ? pas sûr, on n'est pas inquiet sur les projets phares du cinéma français. Emmanuel, Aznavour, L'amour ouf de Gilles Lelouch, Le Comte de Monte Cristo, ils ont tous largement dépassé les 20 millions d'euros de budget. Mais quid des autres, la fréquentation 2024 démarre assez mollement et un Danny Boone qui autrefois cumulait les records, eh bien n'a pas dépassé aujourd'hui la barre des 200 000 spectateurs avec son dernier film, Les Chèvres, qui a pourtant coûté 19 millions d'euros.
Merci Corinne Pellissier pour ces précisions et les conseils sortis du mercredi. Ce sera évidemment demain avec Alexis Demeyer puisque nous sommes mardi. 13h28 sur Inter. C'est logique. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo d'Élodie Calac. Puis à 13h30, on fait l'inventaire de notre sous-sol riche en minerais. Il attise les convoitises. Faut-il ouvrir de nouvelles mines? Et si oui, quel sera l'impact pour l'environnement? On en parle ensemble et avec nos invités. J'attends vos appels. 01 45 24 7000. 13h45, notre feuilleton, le retour du surf à La Réunion après la crise requin. 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Cyril Petit et Frédéric Pommier sont avec nous aujourd'hui. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Cyril, où nous emmenez-vous?
De l'Armor-Baden dans le Morbihan à Marseille en passant par Saint-Maximin dans l'Oise, on n'a jamais vu autant de sangliers en France, dans les champs mais aussi dans les villes.
Et avec vous Frédéric, une romancière.
Joyce Sormand dont le dernier livre Le Témoin vient de paraître chez Flammarion. Joyce Sormand qui nous parlera d'un groupe qui a chamboulé son adolescence et continue même d'inspirer le flot de son écriture. Ce groupe, c'est Suprême NTM.
Et pas seulement la sienne d'adolescence manifestement. À tout à l'heure.
Bonjour, c'est Elise Moon. Je voudrais vous parler d'un spectacle que j'adore, celui de la nature. Voir des haies, des arbres fruitiers ou des plantes grimpantes sur les façades, dans ce spectacle, on a tous un rôle à jouer. Pour y participer, rendez-vous sur jagisjeplante.org. En famille, avec vos voisins, vos élèves ou votre club de sport, vous verrez où et quoi planter pour embellir votre quotidien et redonner vie à la biodiversité. La nature vous dit merci. J'agis, je plante est une initiative de la Fondation pour la nature et l'homme.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules électriques, hybrides ou thermiques. Devis et rendez-vous en ligne tout simplement sur euromaster.fr.
Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
C'est une journée pluvieuse et en prime bien agitée sur le sud-est.
Oui, de bonnes pluies balayent le pays. Alors sur le sud-est, ces pluies sont parfois soutenues, hein, surtout du Languedoc jusqu'aux Cévennes, où elles sont parfois accompagnées d'orages. Le vent de sud à sud-est est fort, jusqu'à 100 km à l'heure sur le littoral, où on attend encore de fortes vagues. Hein. L'Hérault reste en vigilance orange, vague submersion jusqu'à 14h. Il neige vers 800 mètres sur l'ouest des Pyrénées et du Massif central. Plus haut ailleurs, mais la neige va s'abaisser ce soir et cette nuit et demain matin, il pourra neiger vers 400 à 500 mètres sur l'est du Massif central et sur l'Isère aussi. Sur la façade ouest cet après-midi, quelques averses, retour de petites éclaircies, dans une ambiance quand même plus fraîche, hein, sur toute une partie ouest avec 8 à 13 degrés cet après-midi. Ça reste plus doux sur le flanc est, 14 à 18 degrés. Demain, on va retrouver notre perturbation qui s'attardera sur les régions de l'est et une nouvelle qui arrivera par l'ouest, suivie d'un ciel d'averses avec du vent fort.
Merci Élodie Calac, Météo France.
France Inter, le 13-14. Jérôme Cadet.
C'était il y a quasiment 20 ans, jour pour jour, le 8 avril 2004, la fermeture du puits de charbon de la Houve à Creutzwald, en Lorraine, marquait la fin de l'exploitation du charbon dans notre pays. Les mines étaient alors remisées dans les livres et les spectacles historiques et, imaginait-on, pour longtemps. Il n'en est rien, la France n'en a pas terminé avec son histoire minière car la transition énergétique est gourmande en métaux, lithium, cobalt, nickel pour les batteries des véhicules électriques notamment et petit à petit émerge l'idée, discutée, c'est vrai, que pour sauver le climat, il faudra ouvrir des mines. Ainsi, le gouvernement mène un grand inventaire des ressources minières pour relancer leur exploitation et les populations commencent à être consultées. À Échassières, dans l'Allier, la Commission nationale du débat public a débuté ses réunions publiques il y a 2 semaines avant l'ouverture possible d'une mine de lithium. 2 invités avec nous pour en parler. Sandra Rimet, bonjour.
Bonjour Jérôme Cadet.
Vous êtes secrétaire générale de l'organisation professionnelle Minéraux Industriels France, c'est-à-dire que vous représentez les industriels spécialisés dans l'extraction et dans la transformation de minerais et de roches. Avec nous également Christophe Poinceau, bonjour.
Bonjour Jérôme Cadet.
Vous êtes le directeur général délégué et directeur scientifique du BRGM. Le BRGM, c'est le Bureau de Recherche Géologique et Minière. Et je précise que vous intervenait en direct d'Orléans et des locaux de nos confrères de France Bleu que l'on remercie. J'attends les questions des auditeurs et des auditrices de France Inter sur ce sujet. 01 45 24 7000. Vous passez également par l'application France Inter. Sandra Rimet, quelles sont les mines? J'ai parlé de la fermeture des mines de charbon, mais il y a toujours des mines en exploitation en France aujourd'hui. Combien et quels sont les minerais qui sont exploités?
En effet, il y a encore 4 mines en activité en France.
4?
4.
Ah oui, c'est
4. C'est peu.
Peu.
Vous avez la mine de sel à Varangéville, qui a ouvert en 1856, qui est une mine souterraine. Donc le sel de cette mine, c'est essentiellement en Lorraine, des applications pour le sel de déneigement et l'agriculture. Vous avez deux mines de bauxite dans l'Hérault. La bauxite, c'est le minerai de l'aluminium, uh-huh. Sauf que là, en France, il est surtout valorisé en ce qu'on appelle en matière première pour réfractaires ou dans les ciments spéciaux. Voilà. Et la dernière mine, c'est une mine de calcaire bitumineux. Pareil, hein, c'est une ancienne mine de 1861. C'est des applications souterraines également et dans l'Ain. Et essentiellement des applications en cosmétologie, en cosmétique pardon, et en pharmacie.
Ça veut dire qu'on est très largement dépendant sur ce terrain-là, sur le terrain des minerais?
Alors, en fait, en France, il y a une différence entre administrative et juridique entre mine et carrière. C'est-à-dire que vous avez c'est une spécificité un peu française. En fait, les mines et carrières, c'est pareil. Donc, on a quand même un riche patrimoine géologique en France.
Et donc on a un potentiel?
Voilà, il y a 4 mines à ce jour, mais il y a 3700 carrières. Et des carrières qui contribuent aux besoins de tous les Français au quotidien, dans tous les domaines.
Qu'est-ce qu'on extrait des carrières, Sandra Rimet?
Alors, je distinguerais deux types. C'est les matériaux de construction que tout le monde connaît plus, parce que c'est quand même 2700 carrières. C'est tout ce qui est sable et gravier, granulat pour les routes, l'infrastructure routière, le génie civil, enfin, à travers le béton. Et vous avez les roches ornementales, vous savez, c'est le mobilier funéraire ou patrimoine. Et vous avez ce qu'on appelle la deuxième catégorie, les minéraux pour l'industrie, c'est-à-dire vous avez des gisements comme le kaolin, le mica, le talc, je pense que vous avez déjà entendu ces noms-là.
Ouais.
Et minéraux pour l'industrie parce qu'ils alimentent des filières industrielles. Finalement, en fait, en France, on a déjà une certaine indépendance minérale. Voilà, si je prends la silice, donc des sables siliceux, c'est 70% de la composition du verre. Donc ça approvisionne l'industrie verrière, ça approvisionne les fonderies. Vous savez, les moules où on coule le métal en fusion, c'est des moules qui sont fabriqués avec des sables siliceux et des résines.
Sandra Rimet nous a parlé du potentiel de notre sous-sol. Vous êtes chargé, Christophe Poinceau, au BRGM du grand inventaire des ressources minières qui a été lancé par le gouvernement. En quoi ça consiste ?
Bah écoutez, je pense qu'avant, il est important d'avoir en tête que notre connaissance du sous-sol aujourd'hui est très imparfaite et en fait commence à dater. C'est-à-dire que la dernière fois qu'on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on avait comme ressources intéressantes sous nos pieds, c'était dans les années 70-80. Et depuis, vous savez que la France est
quand même
fortement...
Donc la carte a 40-50 ans.
La carte a une quarantaine d'années. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'à cette époque-là, d'une part, on ne cherchait pas la même chose. Typiquement, le lithium n'avait aucun intérêt à cette période. On ne l'a jamais cherché. Et d'autre part, on n'avait pas les outils qui nous permettent de regarder en profondeur ce qu'on a dans notre sous-sol. Donc c'est bien l'enjeu de ce qu'on veut relancer aujourd'hui. Connaître plus précisément ce qu'on a sous nos pieds, quelles sont les ressources qui pourraient être intéressantes, de manière à réduire notre dépendance aux importations et à améliorer notre souveraineté sur ces questions, sur ces métaux qui sont indispensables pour nos transitions.
Comment vous faites ?
Alors comment on fait ? Ben écoutez,
vous creusez.
D'abord, je crois que on creuse pas du tout. On a, au moins dans une première étape, il y a rien d'intrusif. C'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin ou comme un super jeu de piste. C'est-à-dire que on va à la fois utiliser des techniques qu'on appelle de géophysique, si vous voulez, on va mesurer des paramètres physiques qui vont nous permettre d'ausculter le sous-sol, un peu comme un scanner ou une radio en médecine nous permet de savoir ce qu'on a dans le corps. On va aussi faire des prélèvements dans les cours d'eau parce que ça a l'avantage de rassembler un peu tout ce qui a été érodé autour de manière à pouvoir faire des analyses chimiques complètes. On va compléter ça avec toute la connaissance géologique qu'on a de notre sous-sol et qu'on a accumulée depuis maintenant bientôt 2 siècles. Et tout l'art des géologues, et puis on y met aussi beaucoup de sciences numériques et d'intelligence artificielle, c'est d'être capable, en croisant tout ça, d'aller identifier quelles sont les zones dans lesquelles on a potentiellement des gisements. Alors un gisement, c'est quoi ? C'est un endroit où finalement... un métal, un minerai, c'est concentré, ce qui fait que ça devient intéressant de pouvoir potentiellement aller le chercher dans des conditions certes économiquement rentable, mais aussi environnementalement respectueuse, évidemment pour avoir un impact minimum.
J'ai regardé votre carte, Christophe Poinceau, Bretagne et Grand Ouest, jusqu'en Mayenne, en Vendée et dans la Manche, le Massif central, les Pyrénées et une partie des Vosges. C'est dans ces régions que vous cherchez, c'est dans ces régions qu'on pourrait rouvrir des mines dans les années qui viennent ?
Alors, effectivement, en fait, on a deux grands types d'environnements géologiques en France. On a les vieux massifs, les vieilles montagnes, si vous voulez, qui sont faites éroder. Et c'est effectivement les zones que vous venez de mentionner principalement. Et puis le reste du pays, pourquoi on s'y intéresse pas ? Parce que c'est des bassins sédimentaires sur lesquels on pourrait trouver potentiellement des gisements, mais c'est quand même beaucoup moins fréquent et beaucoup plus complexe à trouver. Donc oui, effectivement, les grands massifs, notamment herciniens et anciens que vous venez de mentionner, c'est dans ces zones-là que potentiellement on aura des ressources d'intérêt et que ben peut-être s'il a il y a une décision démocratique en ce sens, on pourra dans quelques décennies ouvrir des mines.
On va y venir, juste puisque vous avez prononcé le mot lithium, Sandra Rimé, à quoi ça sert le lithium aujourd'hui ? Pourquoi il y a un intérêt pour ce métal aujourd'hui ?
Mon périmètre, moi, c'est plutôt les substances de carrière et non métalliques, non énergétiques. Le lithium fait partie des substances de mine.
Alors Christophe Poinceau, puisque vous avez employé le mot, peut-être une précision sur le lithium. Pourquoi est-ce qu'il a tant d'intérêt aujourd'hui ?
Bah, tout à fait. Je pense que tout le monde a maintenant en tête que à peu près un tiers de nos émissions de gaz à effet de serre, c'est lié à notre mobilité. Mobilité individuelle, mobilité collective avec les transports, etc. Et au fait qu'on brûle aujourd'hui du carburant, donc des ressources fossiles qui émettent du CO2. Si on veut aller vers une économie neutre en carbone et donc lutter contre le changement climatique, hein, il faut qu'on transforme cette mobilité carbonée en une mobilité électrique. Et pour ça, il faut des batteries de grande puissance. Et aujourd'hui, la technologie de référence, c'est une technologie dans laquelle on a du lithium, qui est, je vais vous passer le détail, mais qui est aujourd'hui fortement utilisé. Et donc, déployer le véhicule électrique, ça nécessite d'avoir des ressources en lithium qui sont beaucoup plus importantes. Et je vais vous donner juste deux chiffres.
Très vite.
Dans un véhicule électrique, vous avez 6 fois plus de métaux que dans un véhicule thermique normal. Et en particulier, vous avez ce lithium dont on est en train de parler. Et deuxième chiffre, on estime qu'à l'horizon 2050, il nous faudra 40 fois plus de lithium tous les ans que ce qu'on consomme aujourd'hui.
On a les enjeux avec vous. Elisa nous appelle du département de la Meuse. Bonjour Elisa.
Merci, bonjour à tous. Bon, une mine propre, ça n'a jamais existé. Ça n'existera jamais. La mine Imerys dans l'Allier, elle pomperait 600 000 mètres cubes d'eau par an. Alors, quel risque de contamination aux métaux lourds, acides, pour les riverains, les rivières, nappes phréatiques, les sols, les cultures, sachant qu'après, il faut traiter les eaux minières pour l'éternité. Alors, chez nous, bon, c'est un petit peu autre chose, c'est 30 piscines olympiques par jour d'eau contaminée à l'acide sulfurique, à l'arsenic, métaux lourds, qui seront rejetées dans nos rivières pour le projet nucléaire Cigéo à Bure. C'est chez nous, c'est pour ça que j'en parle. Merci, au revoir.
Là, c'est un autre dossier. Merci Elisa pour cette question. Là, la mine dont nous parle Elisa, la mine Imerys dans l'Allier, c'est celle dont je parlais en introduction, où le débat public a débuté avec de premières réunions publiques il y a quelques semaines. Christophe Poinceau, sur la question et les réserves, inquiétudes critiques soulevées par Elisa à l'instant.
Alors écoutez, d'abord, je crois qu'Elisa a raison. Il n'existe aucune activité humaine, industrielle, commerciale, tout ce que vous voulez, sans impact. Donc oui, une mine demain aura un impact. Par contre, tout l'enjeu, et c'est là où je vais m'éloigner de son appréciation, c'est que on est capable aujourd'hui, grâce à la recherche, grâce à la science, au développement, de pouvoir concevoir des mines qui sont avec un impact environnemental qui est extrêmement faible. Alors permettez-moi de donner quelques illustrations. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on recycle l'eau, ça veut dire qu'on recycle les déchets, ça veut dire que c'est une mine souterraine, ça veut dire que c'est une mine qui est électrifiée, ça veut dire que c'est une mine qui est robotisée. Et tout ça fait que effectivement, demain, on aura une mine avec un impact non pas nul, ça n'existe pas, mais beaucoup plus faible que ce qu'on a pu connaître dans le passé dans notre territoire. Et alors je reviens sur le chiffre qu'elle mentionnait, 600 000 mètres cubes d'eau, effectivement ça peut faire peur.
Oui.
Il faut remettre ça dans un contexte, parce que moi un chiffre comme ça me dit pas grand chose. Ça représente 0,1% pardon du débit moyen de la rivière qui coule à côté, qui s'appelle la Sioule, dans laquelle Imerys prévoit a priori, mais tout ça c'est à confirmer par les études à venir, de faire ces prélèvements. Et en période estivale, d'étiage, donc de niveau d'eau très faible, ça représente 0,6%. Donc ça reste extrêmement faible, et c'est également quelque chose qui a été regardé, ça reste compatible avec ce qu'on anticipe en termes de d'impact du changement climatique, qui devrait réduire le volume des cours d'eau, mais pas à la hauteur de ce qu'on est en train de parler.
Message de Catherine, si le lithium dont on parle à l'instant est pour les vélos électriques, ok, mais si c'est pour les véhicules, les voitures SUV, non, c'est une aberration. La transition énergétique ne sera possible que si on fait évoluer nos besoins. Je rebondis sur les critiques de Catherine et Elisa. Comment vous expliquez, Sandra Rimé, les inquiétudes, les réserves ou l'opposition qu'on entend souvent et qui se sont exprimées d'ailleurs à l'occasion de l'ouverture du débat public là, concernant cette mine dans la population française?
Ben justement, c'est bien qu'il y ait ces commissions de débat public parce que ça permet de donner un peu de connaissances. En fait, je pense qu'aujourd'hui, nos activités d'extraction et de transformation ensuite en usine sont pas sous les radars. Et justement, il faut qu'on soit plus... Les industriels, il faut qu'on montre un peu qu'on travaille proprement et qu'on est dans une prospective de gestion durable. Pas une prospective, on travaille déjà depuis 30 ans de façon durable. Que ce soit sur les impacts sur l'eau, l'air, les sols, etc.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi, Christophe Poinceau, là, la conséquence de l'héritage des mines, cette histoire française très importante, qu'on appelle aujourd'hui le passif minier, c'est-à-dire qu'il y a des territoires entiers qui ont été pollués et ils n'ont pas tous été dépollués?
Alors, je pense qu'il faut vraiment que tout le monde ait en tête, tous nos auditeurs comprennent bien que la mine d'hier n'est pas la mine d'aujourd'hui ni celle de demain. Que, évidemment, entre-temps, on a pris conscience et on a appris à connaître les enjeux environnementaux et ce qu'on prévoit ou ce qu'on souhaite ou ce qu'on propose de développer dans le futur n'a rien à voir avec ce qui a pu se passer dans le passé. Donc ça, demain, vous avez compris, on prendra vraiment en compte, enfin demain, dans les mines qu'on conçoit dès maintenant, ouais, les enjeux environnementaux, les enjeux sociétaux aussi, en termes donc de co-construction des projets avec les acteurs locaux. Et sur le passif minier, comme vous le mentionniez, donc c'est un sujet qu'on connaît bien au BRGM, c'est un sujet sur lequel, évidemment, on fait un maximum, je dirais, à la fois de surveillance et aussi de travaux pour faire en sorte que l'impact de ces anciennes activités qui ont été faites. Je crois qu'il ne faut pas blâmer, entre guillemets, nos grands-parents ou nos ancêtres. Ils l'ont fait avec les connaissances qu'ils avaient à l'époque des impacts environnementaux et ils ont fait du mieux qu'ils estimaient pouvoir le faire. Donc aujourd'hui,
oui, mais il y a des conséquences sur la santé aujourd'hui. On peut comprendre aussi que vis-à-vis des populations, ça suscite des réserves sur les projets à venir.
Alors, il n'y a pas de conséquences aujourd'hui sur la population, dans le sens où c'est géré par les pouvoirs publics, et en particulier, ou en partie par le BRGM, par délégation des pouvoirs publics. Et donc, on a une surveillance, je dirais, constante de l'ensemble de ces sites, et on réalise l'ensemble des travaux qui méritent d'être faits pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'impact. Ou qu'il soit, alors pas d'impact, permettez-moi de corriger, qu'il soit le plus réduit possible. Uh-huh. Encore une fois, le zéro n'existe pas en science. Et donc, de manière à ce que on gère le mieux possible cet héritage collectif qui a permis à la France d'être ce qu'elle est aujourd'hui aussi.
Merci à tous les deux d'avoir accepté l'invitation de ce 13-14. Sandra Rimé, secrétaire générale de l'organisation professionnelle Minerais Industriels France. Merci également à Christophe Poinceau, en direct d'Orléans, directeur général délégué du BRGM. 13h45. Une semaine dans leur vie. C'est le retour du surf sur l'île de la Réunion. Plus d'attaques de requins depuis 2019, mais le risque est toujours là. Alors la pratique est devenue impossible après 2010. Elle est revenue, très encadrée. L'Open de surf de France, par exemple, s'est tenu la semaine dernière sans aucun incident. Deuxième épisode aujourd'hui de notre feuilleton, nous sommes avec Olivier Gourama. Il est membre de la Vigie Requin. C'est un programme financé par la région et par le département de la Réunion qui permet de délimiter des périmètres où il est possible de surfer.
Le matin, le premier truc à faire, c'est mettre son bateau à l'eau. Et une fois que le bateau est mis à l'eau, c'est de partir sur tous les spots et regarder la visibilité. On est référencé sur 10 mètres. Normalement, là, on est passé sur 8 et avec des nouveaux contrats sur 5 mètres maintenant, de distance. On introduit dans l'eau une tige avec un disque, on l'appelle la sucette. Et de ce disque-là, on se projette d'une distance de plus de 5 mètres. Si on arrive à revoir le disque à 5 mètres, c'est bon, il y a la visibilité, on ouvre. Olivier Gourama, je suis vigie requin actuellement. Avant, j'étais dans la Marine nationale, bon, ça remonte il y a très longtemps. Alors, on a un sifflet sur nous. Quand on aperçoit un requin, on fait le sifflet. Il y a un bateau, ça s'appelle le bateau d'intervention. Lui, ce bateau, il a des fumigènes. Lui, là où il a entendu le sifflet, parce que le sifflet, on l'utilise que pour le requin. Dans le protocole de sécurité, les surfeurs, ils sont au courant. Quand ils voient le fumigène, c'est tout le monde dehors. C'est-à-dire que le requin, il a été aperçu. On évacue le site. Une fois le site évacué, on attend une demi-heure, parce que les requins ne restent jamais en place. Mais le requin, quand il arrive, notre but, c'est d'alerter, de faire sortir les gens. On n'est pas là pour l'arrêter, On a deux bateaux, un bateau avec des caméras. Les images de la caméra sont retransmises sur une base terrestre. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a un bateau d'intervention. C'est lui, au cas où, s'il y a une attaque ou une évacuation à faire, on transporte la victime dessus avec le brancard et tout. Il est équipé pour ça. Dégagement d'urgence.
Donc pour vous, le fait qu'il n'y ait pas eu d'attaque, c'est grâce à vous aussi, en fait?
Un peu grâce à nous, un peu grâce au comité des pêches. Ils ont fait quand même des pêches aussi, presque préventives. Bah, ça se fait encore, hein. Tous les matins, si t'arrives, tu vois une bouée rouge, une bouée jaune à côté, pas trop loin du littoral. Ça, c'est un truc des pêches. Si c'est près du littoral, c'est une palangue de fond pour capturer le bulldog. Et si c'est un peu plus loin, c'est une drumline, c'est pour les tigres. Ils savent cibler maintenant les spécimens.
Il y a des surfeurs qui nous disent, même s'il n'y a pas le dispositif et les autorisations, j'y vais quand même. Qu'est-ce que vous leur dites?
Ah, ben, on ne peut rien faire contre eux. Hein. Comme je t'ai dit, on n'est pas à la gendarmerie, on n'est pas là pour faire la loi. On fait une prévention, on nous dit, les gars, c'est dangereux, n'y allez pas. Et après, c'est à la discrétion. Hein. La réunion, elle est fermée normalement au surf. Le surf, il est autorisé que dans les dispositifs Zonex, comme la VRR ou comme la Water Patrol. Depuis que la VRR existe, il n'y a pas eu d'attaque. Vigie requin renforcé, c'est l'entité que l'État a mis en place à La Réunion pour lutter contre le requin. À toi de le respecter, si tu ne respectes pas, si t'arrives quelque chose, t'as pas les assurances qui fonctionnent. À La Réunion, c'est bien ça. Hein. Le gars qui va surfer hors dispositif et qui se fait attaquer, bah, il a aucune assurance qui fonctionne, donc il va tout payer. S'il a une jambe arrachée, il va payer le bloc opératoire. Il se retrouve démuni, quoi. Donc, je conseille aux surfeurs d'aller dans les dispositifs. On a créé quand même un pour les écoles et un pour les free surfeurs à Saint-Leu. Donc, il y a ce qu'il faut, quoi. Faut pas faire le couillon, comme ils disent à La Réunion. Voilà.
Un feuilleton réunionnais cette semaine, signé William Delesseux, avec la réalisation de Stéphane Ronxin.
France Inter, le 13-14.
C'est la France à 13h50, le mardi. Cyril Petit, vous nous racontez ces petites histoires qui en disent long. Et aujourd'hui, vous nous parlez des sangliers qui sont de plus en plus nombreux en campagne, mais aussi en ville.
Et je vous emmène à l'Armor Baden dans le Morbihan. « Je ne sais plus quoi faire », dit Jean Montfort à Ouest-France en montrant l'état de son jardin. Une véritable tranchée. Les responsables des sangliers qui, tous les deux ou trois jours, labourent la terre à la recherche de nourriture. Ils m'ont retourné un tiers du terrain et sont venus gratter jusqu'à la terrasse, se désole le retraité, qui n'est pas seul. Depuis quelques mois, des dizaines d'histoires et de déboires sont racontées dans la presse locale. Il n'y en a jamais eu autant, selon la plateforme de veille Média Taguedé.
Alors, ça peut prêter à sourire, mais ces situations parfois sont très dangereuses.
Oui, sur la route notamment, avec des milliers de collisions par an. Un exemple, le 17 février vers 23h, entre Fontenay-le-Comte en Vendée et Niort dans les Deux-Sèvres, Aline a percuté un sanglier. Résultat, une voiture détruite, quelques courbatures, des enfants choqués et la peur que ça se reproduise, car Aline et sa sœur Valérie ont déjà percuté 4 de ces animaux sauvages depuis 2018.
Alors, des sangliers dans les champs, sur les routes aussi, on peut en avoir l'habitude, mais on les voit désormais dans les villes.
Et les vidéos se multiplient qui font parfois le buzz sur les réseaux sociaux, comme ces trois sangliers et cette dizaine de marcassins filmés en mai 2023 à Orvault, en Loire-Atlantique. Et pourtant, de l'insolite au dangereux, il n'y a qu'un pas, Jérôme. Il y a quelques jours, un de ces mammifères s'est introduit dans un collège-lycée de Marseille. L'animal a chargé des élèves qui ont évité l'accident de justesse. Le surlendemain, même intrusion au collège de Saint-Sulpice-la-Pointe dans le Tarn. Saint-Maximin dans l'Oise ou Ramatuelle dans le Var ont aussi été témoins de l'arrivée en ville des amis d'Obélix.
Oui, les amis, jusqu'à ce qu'ils les mangent. Comment est-ce qu'on explique l'arrivée de sangliers en ville?
Eh bien, le chercheur au CNRS, Raphaël Madvé, estime à plus d'un million le nombre de ces animaux sauvages en France. La population augmente pour de multiples raisons, notamment le changement climatique avec des hivers plus doux qui entraînent moins de mortalité naturelle chez ce mammifère. Dans le Parisien, l'auteur du livre « Sanglier, géographie d'un animal politique » explique que ceux-ci peuvent se déplacer de plusieurs kilomètres par jour. Ils recherchent de la quiétude, de l'eau et de la nourriture. Trois choses que les villes dotées d'espaces verts proposent. C'est un animal très adaptatif, dit-il, mais qui peut avoir des réactions imprévisibles. Mieux vaut alors ne pas l'approcher et ne pas le nourrir pour ne pas l'habituer. Je le cite, « Il faut se préparer à vivre avec. Aucun indicateur ne dit que cela va se réduire dans un futur proche. Pourtant, on n'en a jamais tué autant, autour de 800 000 par an. »
Alors justement, comment sont régulés ces sangliers?
Eh bien, ce sont les chasseurs et principalement les louvetiers qui sont chargés de réguler le nombre de sangliers et donc de les abattre, car les fédérations départementales doivent indemniser les agriculteurs pour les dégâts causés par les grands gibiers. Les deux camps, agriculteurs et chasseurs, se renvoient parfois la balle pour savoir qui est responsable de la prolifération, sans oublier les associations de défense des animaux sauvages. L'ASPAS, par exemple, appelle à cohabiter en bonne intelligence et critique notamment le fait que les chasseurs nourrissent les sangliers pour les garder en forêt, empêchant ainsi leur régulation. De son côté, notre chercheur Raphaël Madvé résume, la question que nous pose le sanglier est celle-ci, quelle est la place de l'animal sauvage sur le territoire humain au XXIe siècle.
Merci Cyril Petit. Je soumets cette délicate question à Frédéric Pommier. Vous me ferez deux copies doubles, Frédéric, cet après-midi.
Trois peut-être.
S'il vous plaît. Avant cela, c'est une chanson. Frédéric, votre invité aujourd'hui est la romancière Joyce Ormond.
Son dernier livre, Le Témoin, paru chez Flammarion, est une plongée dans les salles d'audience du Palais de Justice de Paris, le théâtre de la justice. Sa violence, ses dysfonctionnements, ce roman est une réussite. Et c'est un titre d'NTM que Joyce Ormond a souhaité nous faire écouter. Le Monde de Demain, sorti en 1991 sur le premier album du groupe.
Alors 91, moi je suis en terminale, j'ai 17 ans. Et évidemment, c'est un âge, l'adolescence, où on est extrêmement poreux à la musique, on se cherche un peu comme ça un son qui pourrait correspondre à un rythme intérieur, le son qui coulerait dans nos veines, on se cherche aussi par la musique. Et moi, je suis dans un lycée des Beaux-Quartiers.
À Paris.
À Paris. Lycée catholique, privé, non mixte, de filles. On est habillé en bleu marine, donc c'est assez radical comme bourgeoisie et comme conservatisme. Et je suis entourée d'une culture en particulier musicale, plutôt liée à l'opéra, à la musique classique, un petit peu au jazz, etc. Et donc, je suis dans un monde où l'altérité n'a pas beaucoup de place.
Poser ma présence, trop pensé pour travailler, trop fier pour faire la charité. Oui, je peux faire la facilité.
Alors, il faut savoir que cet album, je l'écoute parce que j'ai un ami qui, lui aussi, est un fils de bourgeois, qui fait du tag et qui, en particulier, a tagué le métro Louvre et a fait un peu de garde à vue après avoir tagué le métro Louvre. Donc, c'est lui, parce qu'il a un père américain qui m'ouvre à la culture rap. Et quand j'entends en particulier dans cet album Le Monde de Demain, tout d'un coup, je me rends compte qu'un autre monde existe. Je me dis, il y a d'autres manières de s'exprimer, c'est tout un monde inconnu, alors évidemment c'est aussi la banlieue, c'est une liberté, c'est une subversion, et ça me parle, c'est-à-dire que ça aurait pu ne pas du tout me parler, justement mon corps de bourgeoise aurait pu ne pas du tout être réceptive à cette musique prolétarienne, on pourrait dire, mais ça vient se ficher en moi, vraiment, et je me reconnais absolument dans cette étrangeté-là, dans cette altérité-là, et ça me décrasse et ça m'ouvre sur un autre monde, et surtout je me rends compte que d'autres choses sont possibles que ma culture strictement bourgeoise, que je peux accéder à d'autres choses.
Quelle chance d'habiter la France. Dommage que tant de gens fassent preuve d'incompétence.
Dans l'insouciance générale, les fléaux s'installent normal.
Dans mon quartier, la violence devient un acte trop banal. Alors, va faire un tour dans les banlieues, regarde ta jeunesse dans les yeux. Sois qui commandant au lieu, mon appel est sérieux. On ne prend pas ça comme un jeu, car les jeunes changent.
Voilà ce qui dérange.
Et ce morceau, Frédéric, est le premier grand succès de Suprême NTM.
Un groupe sur lequel Joyce Ormond a d'ailleurs publié un roman, Du bruit, paru chez Gallimard en 2007. Et pour elle, si ce groupe l'a tant chamboulé à l'époque, eh bien c'est à la fois grâce aux acrobaties linguistiques et à la façon de chanter des deux leaders.
On a cette espèce de flow asthmatique de Kulchen qui aspire les mots. Et puis on a la façon plutôt de racler la phrase de Joey Starr. Et donc, ils inventent une nouvelle façon d'articuler la langue française. Moi, à l'époque, je suis déjà assez littéraire. Et je me dis, ah, mais il y a d'autres manières d'écrire, il y a d'autres manières de dire. Parce que ce qui m'intéressait dans le rap de NTM, c'est moins finalement le texte. Même si le texte qui date de 91, il est toujours d'actualité. Il parle des banlieues et de la jeunesse. Mais ce qui me touchait plus, c'était cette nouvelle manière d'articuler la langue. Il y avait quelque chose pour moi de très poétique. Ils étaient comme des espèces de troubadours du 93 qui inventaient une nouvelle prosodie. Et en tant qu'écrivain, ça m'a toujours accompagné. Le groupe m'a toujours accompagné parce que je trouve qu'il donne une énergie au verbe que je garde comme un peu comme un trésor. Quelque chose qui me donne la force d'écrire, qui me donne une vitesse dans l'écriture. J'aime les avoir dans la tête aussi quand j'écris.
C'était lequel des deux, votre préféré?
Ah bah, je pense que c'était Joey Starr. C'est celui qui représentait le plus cette étrangeté-là dont je parlais, cette animalité, cette espèce de violence sourde, cette subversion. Kulchen, c'est plus le gentil garçon, même si j'aime beaucoup son flow asthmatique, mais Joey Starr, c'était l'irruption. Puis sur scène aussi, il était beaucoup plus expansif que Kulchen. Il avait quelque chose de très très athlétique, de très fauve. Et puis il avait ses dents en or, donc c'était aussi comme une espèce de dieu incarné, complètement fiévreux. Enfin, il pouvait incarner comme ça plein de figures.
Si tu te demandes pas de comprendre, mais de résoudre des problèmes qui habitent. Là-bas, on lui dit, s'agit toujours plus vite. Sans limite, admet qu'il y a un point critique à ne pas dépasser. En tant qu'informateur, je me sens obligé de dévoiler la vérité, car le silence ne sera plus jamais toléré. Oh, oui, c'est triste à dire.
Ça vous manque, cette période-là, aujourd'hui ?
Oui, ça manque, mais comme manque la jeunesse parfois, comme manque la grande santé de la jeunesse, l'énergie de la jeunesse, pouvoir rester des nuits entières à danser, pas avoir besoin de repos, quelque chose qu'on perd un petit peu, je trouve, avec l'âge. Donc j'ai une nostalgie de cette musique-là, de ces concerts, mais qui est en fait une nostalgie d'un âge, quoi, de la vingtaine.
Le monde de demain, quoi qu'il advienne, nous appartient, la puissance est dans nos mains, alors...
Le monde de demain, Suprême NTM. C'était donc, Frédéric, le choix de Joyce Sormand.
Joyce Sormand, dont le dernier roman remarquable, Le Témoin, est publié chez Flammarion.
Merci Frédéric, à demain.